Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous cheminerons aujourd'hui avec un grand auteur français qui a écrit, qui a donné à la langue française ses plus belles lettres, ses plus belles pages, qui est Blaise Pascal. Tout le monde connaît Blaise Pascal, au moins de nom, et notamment le livre, le chef-d'œuvre qu'il a laissé malheureusement inachevé, connu sous le titre de Pensée, et on sait en général aussi qu'il nous reste seulement des fragments de Pascal. Alors peut-être que certains ont en mémoire tous les fragments de Pascal portant sur la misère de l'homme, et peut-être que certains aussi ont surtout retenu justement cela, au point de voir en Pascal un auteur pessimiste. Cela, en fait, est une erreur de perspective, due principalement d'ailleurs à la disproportion entre ce qui nous reste des écrits de Pascal et ce que Pascal envisageait d'écrire. Nous savons que la mort qu'il a emportée finalement jeune l'a empêché d'achever son grand œuvre. Pascal voulait bien mettre l'accent sur la misère de l'homme, mais ce n'est pas la misère de l'homme qui l'intéresse, c'est la misère de l'homme sans Dieu, ce qui change tout. Et Pascal voulait faire cela afin de faire voir justement la véritable destination de l'homme qui conduit à la véritable joie de l'homme, qui est la joie de l'homme avec Dieu. Donc ne retenir que la misère de l'homme et en plus en la retenant sans Dieu, c'est vraiment ne pas comprendre Pascal. Pour le comprendre, il faut bien au contraire envisager le projet tout entier, l'apologie de la religion chrétienne, comme Pascal voulait l'appeler. Alors, nous retiendrons quelques passages importants de cette œuvre tout à fait foisonnante, qui a donné lieu à beaucoup d'éditions différentes, avec des numérotations différentes des fragments. Je retiendrai pour commencer l'attitude de Pascal à l'égard de la religion. Je lis ceci. « Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. » Pascal note ici donc un mépris qui va jusqu'à la haine à l'égard de la religion, que nous voyons bien se déployer de temps en temps. Et ce qu'il souligne avec subtilité, c'est la peur que la religion ne soit vraie. En fait, cette haine cache une crainte, la crainte que la religion ne soit dans la vérité. La vérité à propos de quoi ? Bien, la vérité à propos de notre humanité, à propos de notre place dans le tout et à propos de l'énigme que l'homme est pour lui-même. La peur qu'elle soit vraie, c'est la peur que la religion, en parlant de l'homme comme entité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en parlant de l'homme, de la chute de l'homme, du péché et du salut de l'homme, on a peur justement que cela ne soit la vérité. Quel est le remède proposé par Pascal ? Eh bien, commencer par montrer que la religion n'est pas contraire à la raison. Il faut donc montrer qu'elle est vénérable et conduire à un passage, puisqu'il faut passer de la haine au respect. Dans un premier temps, donc, par une argumentation rationnelle, celui qui voudra bien cheminer avec Pascal sera invité à passer de la crainte ou du mépris au respect, en se disant, tiens, il se pourrait que la religion fût véritable. Elle n'est pas contraire à la raison. Première étape. Deuxième étape, la rendre ensuite aimable et faire souhaiter au juste qu'elle soit bon. Voilà, qu'elle soit vraie, pardon. La rendre ensuite aimable et faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, dit Pascal. Donc après avoir montré qu'elle est respectable parce qu'elle ne choque pas la raison humaine, faire souhaiter qu'elle fût vraie et par là donc la rendre aimable. Enfin, dernière étape, montrer qu'elle est vraie. Voilà donc le projet de Pascal. Nous conduire de la haine de la religion et de la religion chrétienne, c'est cela qui est en jeu ici, à la considération et enfin au désir qu'elle soit vraie. Le plan de Pascal consistera donc à montrer aux hommes que seule la religion chrétienne a saisi dans son caractère abyssal et énigmatique justement ce qu'est l'homme. Montrer qu'elle est vraie, donc, c'est montrer que seule la religion chrétienne a compris l'incompréhensible, pour user d'un paradoxe. Cet incompréhensible à ses propres yeux, c'est l'homme. La religion chrétienne doit être montrée dans son caractère vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme. Donc elle a connu l'homme en ceci qu'elle a compris que l'homme tel que nous le rencontrons aujourd'hui n'est pas l'homme tel qu'il est né de Dieu. C'est là le thème de la chute que nous retrouvons. Donc, ça veut dire aussi que lorsque Pascal parle de la nature ou de la nature de l'homme, il faut se rappeler que le mot nature a chez lui deux significations. Tantôt, l'expression renvoie à la nature d'avant la chute, tantôt à la nature d'après la chute, donc l'état de l'homme tel que nous le connaissons par nous-mêmes et par autrui aujourd'hui. Donc, cette religion chrétienne a bien connu l'homme parce qu'elle a su percer le mystère de l'homme en comprenant dans l'homme le caractère incompréhensible de l'homme à ses propres yeux, c'est-à-dire en comprenant que l'homme est incompréhensible à ses yeux, justement parce qu'il n'est plus ce qu'il a été et qu'il n'est pas encore ce qu'il est destiné à devenir, à savoir retrouver la vie auprès de Dieu. Ensuite, il faut montrer que la religion est aimable parce qu'elle promet le vrai bien. Elle promet le vrai bien, ce vrai bien qui n'est pas simplement une abstraction et qui n'est pas non plus un bien de l'imagination, ce vrai bien qui est le Dieu vivant. Pascal met aussitôt en évidence deux dangers. Un premier danger qui est celui qui consisterait à exclure la raison, et le second qui consisterait à n'admettre que la raison. Nous aurons maintes fois l'occasion de le voir en l'étudiant Pascal. Pour lui, voilà deux excès. Celui qui ne consulte que la raison et qui ne croit, qui ne tient pour vrai que ce que la raison peut établir, et d'autre part celui qui exclut la raison. Toute la subtilité de l'analyse pascalienne consiste à montrer que la raison est nécessaire, qu'il faut admettre la raison, mais qu'en même temps la raison a à recevoir des vérités dont elle n'est pas l'auteur, mais dont elle peut reconnaître la vérité et la bonté. Donc il ne faut pas exclure la raison. Exclure la raison nous ferait tomber dans l'irrationalisme quand ce n'est pas parfois dans la stupidité ou la sottise, et n'admettre que la raison serait un rationalisme étroit, borné, qui ne verrait pas que la raison elle-même se transcende elle-même et que la raison elle-même touche à quelque chose qui est d'un autre ordre, mais qu'elle peut penser d'une certaine façon quand cela lui est donné. Pascal continue avec un autre extrait, un autre fragment, en disant « Si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. » Donc tout soumettre à la raison, c'est enlever le mystère, enlever le surnaturel, et nous savons que c'est une tentation permanente. C'est la tentation de ceux qui veulent rationaliser la religion, démythologiser, et au point que, justement, tout ce qui leur paraît incompréhensible, mystérieux, insondable, sera par eux évacué. Pascal nous demande de comprendre qu'il y a bien du mystère, et une des dimensions de ce mystère, c'est bien ce qu'il nomme le surnaturel. La vie de Dieu, Dieu lui-même, la relation de Dieu avec l'âme de chacun, voilà quelque chose qui n'est pas connaissable, comme la formule la plus simple, 2 plus 2 sont 4. Donc on ne peut pas tout soumettre à cette raison-là. En outre, si nous choquons les principes de la raison, et si nous affirmons des choses parfaitement sotte ou vaine, justement la religion devient absurde et ridicule. Donc entre les deux voies se situe le juste milieu, qui est l'appel à la raison et la découverte par la raison de vérités qui la transcendent, mais qu'elle peut recevoir et qu'elle peut d'une certaine façon penser. Voilà. Là, nous avons donc bel et bien le point de départ de notre problème. Regardons maintenant le plan proposé par Pascal, ou un des plans, parce que il y a plusieurs hypothèses sur la question. Le plan donc du livre projeté par Pascal. La première partie porte sur ce que Pascal appelle la misère de l'homme sans Dieu. Et la seconde partie, qui est moins développée, devait s'intituler « Félicité de l'homme avec Dieu ». Donc nous voyons bien ici le contraste entre la misère d'un côté et la félicité de l'autre, et chaque fois la misère et la félicité ne prennent sens en fonction de la présence ou de l'absence de Dieu, et la présence ou l'absence de l'homme à l'égard de Dieu. La première partie devait montrer la corruption de la nature humaine, c'est-à-dire donc le fait que la nature de l'homme telle que nous la rencontrons, telle que nous l'observons, est corrompue, et cela, Pascal voulait le faire en le montrant par la nature elle-même, c'est-à-dire qu'en examinant la nature de l'homme telle que nous l'observons, nous découvrons ici qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, quelque chose d'incompréhensible dans la nature elle-même de l'homme. Quelque chose donc qui fait que la clé du chiffre, la clé de l'énigme qu'est l'homme, c'est cette idée de péché originel. La deuxième partie devait montrer qu'il y a un réparateur, qu'il y a un médiateur, et cela ne peut pas se faire en regardant la nature humaine, parce qu'en regardant la nature humaine, nous voyons du contradictoire, un monstre incompréhensible à ses propres yeux, comme dira Pascal plus loin. Et c'est seulement donc par l'Écriture, par la Bible, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, que nous pouvons justement comprendre qu'il y a un réparateur. Ce réparateur, ce sera l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Ce réparateur, ce sera Jésus-Christ. Toute la pensée de Pascal donc, nous tournera dans ces deux directions. Dans un premier temps, reconnaître et explorer la misère de l'homme sans Dieu. Dans un deuxième temps, découvrir la véritable félicité de l'homme qui sera sa félicité auprès de Dieu.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Blaise Pascal est contemporain de deux grandes inventions dans les instruments et qui ont une immense portée dans l'histoire des sciences. Ces deux inventions sont l'invention du microscope d'une part et l'invention du télescope d'autre part, les lunettes d'approche, comme on dit à l'époque de Pascal. Mettons-nous à la place de ceux qui les premiers ont braqué leur télescope vers la Lune, vers Jupiter. Le premier nous connaissons, c'est Galilée, et qui a découvert, ce Galilée, qu'il y avait des montagnes sur la Lune, qui a découvert les satellites de Jupiter, qui les a observés, qui a découvert des taches sur le Soleil. Voilà. Donc soudain, grâce à cet instrument de mesure et d'observation, de nouvelles dimensions, de nouvelles choses de l'univers apparaissent et l'univers semble infini, immense. De l'autre côté, ces premiers savants aussi ont tourné leur microscope, ce coup-ci, vers l'infiniment petit, et ils ont découvert dans les animaux que nous voyons à l'œil nu être et que nous pensons être les plus petits, ils ont découvert un monde. Et donc dans ce qui nous semble à l'œil nu comme étant le plus petit des animaux, ils ont découvert que cet animal lui-même peut porter des parasites, et on suppose à l'époque donc, que cela peut aller à l'infini. Qu'en découle-t-il pour notre question ? Eh bien, il en découle que soudain, voilà l'homme qui se situe entre deux infinis, mais comme perdu entre deux infinis. D'un côté, l'infiniment grand de cet univers, dont nous découvrons soudain des galaxies et des objets toujours plus lointains et plus nombreux et inconnaissables, et d'autre part, l'infiniment petit qui s'ouvre aussi devant nos yeux et qui nous fait supposer qu'à l'infini, on peut toujours descendre et qu'on va vers de nouveaux univers infiniment petits, et que ce que nous prenons pour rien est peut-être en soi un monde. Voilà donc l'homme entre deux infinis. Et voilà que cette science nouvelle conduit à une réinterrogation de l'homme, et une réinterrogation de l'homme quant à sa place dans cet univers. Nous rentrons ici dans les considérations importantes de Pascal, ce qu'il appelle la disproportion de l'homme. Je lis un fragment. Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature. Ce canton, c'est le système solaire. Je continue. Et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, c'est Pascal qui écrit, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même à son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Voilà une grande question. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme entre deux infinis ? L'infiniment grand au-dessus de lui, l'infiniment petit au-dessous de lui. Et qu'est-ce que l'homme ? Quelle est sa place ici ? Car enfin, dit Pascal, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Voilà donc une nouvelle position de l'homme dans l'univers. Nous ne sommes plus ici dans l'univers fini et limité de toutes parts de la science antique, l'univers tel qu'il a été pensé par exemple par Platon dans le Timée. Nous nous rappelons que dans le Timée, Platon affirme que le monde doit être sphérique parce qu'il est parfait et c'est donc une sphère finie, limitée, et nous sommes, nous, sur la Terre, au centre de cet univers. Dans la science nouvelle, le monde n'est plus un tout fini, mais un tout infini, ou plutôt indéfini, dont nous ne connaissons pas précisément les limites, de telle sorte que, comme le dira Pascal, nous sommes comme dans un cercle, mais un cercle infini tel que le centre est partout et la périphérie nulle part. Donc c'est toute la logique de l'infini qui est travaillée, qui est interrogée et qui permet de repenser la place de l'homme dans la nature. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Eh bien, à l'égard de l'infini, c'est-à-dire de l'infiniment grand, de l'infini positif, il n'est rien, c'est un néant. Mais à l'égard de l'infiniment petit, il est un tout, il est un monde. Et voilà donc, si nous mettons maintenant l'homme entre les deux, comme le dit Pascal, il est un milieu entre rien et tout. Pascal continue. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Voilà donc la position de l'homme d'après la science nouvelle. Cet homme qui élabore des hypothèses sur le commencement des choses, le commencement de l'univers, l'ordre de l'univers, mais cet homme qui s'aperçoit maintenant qu'il ne comprend pas le commencement, qu'il ne comprend pas la fin, qu'il ne comprend pas l'infini, et l'infiniment grand, et qu'il ne comprend pas non plus l'infiniment petit. Voilà donc un homme comme perdu entre ces deux infinis. Un homme qui ne sait quelle est sa place, et qui découvre qu'il ne peut plus se sentir assuré dans un tout fini, comme l'étaient les hommes de l'Antiquité par exemple, qui avaient la certitude d'habiter au centre du monde, c'est-à-dire en fait en bas, quand les dieux, eux, habitaient en haut. Donc nous voyons ici un renouvellement complet du regard sur l'univers physique. Et nous voyons aussi un étonnement nouveau de l'homme par rapport à lui-même. Et Pascal va jusqu'à parler de désespoir. Désespoir parce que nous savons que nous ne connaîtrons pas le commencement de toute chose, la fin de toute chose. Je veux dire par là que nous ne les connaîtrons pas par la voie de la physique, ou de l'astrophysique, comme on dira plus tard. Et nous voyons donc que nous butons contre des choses à jamais inconnaissables pour nous. Nous nous enorgueillissons de connaître le principe des choses, mais Pascal souligne que tout ce que nous pouvons faire, c'est quelques hypothèses qui sont sans doute fécondes et admirables, mais qui ne nous donnent pas à connaître les principes des choses, ni non plus les principes de la philosophie. Quand Descartes a écrit le livre « Les principes de la philosophie », nous voyons bien que c'est Descartes ici notamment qui est visé. Pour Pascal, l'homme ne peut pas s'enorgueillir de connaître le principe des choses, ou les principes des choses. Qu'avance-t-il? Alors il nous demande de connaître notre portée. Nous sommes quelque chose, mais nous ne sommes pas tout. Ce que nous avons d'être nous dérobe la connaissance des premiers principes, qui naissent du néant, et le peu que nous avons d'être nous cache la vue de l'infini. Voilà donc la place de l'homme entre les deux infinis. Voilà notre état véritable, dit Pascal. C'est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. L'homme n'est pas un pur et simple ignorant, sinon il ne penserait pas et il ne saurait pas qu'il ne sait rien. Donc nous ne sommes pas dans l'ignorance pure et simple, nous sommes dans une ignorance qui se sait ignorante, la docte ignorance, héritage ici lointain de Nicolas de Cuse et de Socrate, mais précisément, nous ne savons pas certainement. Donc nous ne parvenons pas à une certitude dans la connaissance de la vérité. Je continue la lecture de Pascal. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant, poussé d'un bout vers l'autre. Voilà donc l'homme à la recherche d'un point fixe et assuré, comme dit René Descartes, au début de la deuxième méditation métaphysique, mais voilà cet homme incapable de le trouver, c'est-à-dire incapable de le trouver dans l'ordre de la nature. Voilà cet homme physicien cherchant un premier principe, une connaissance des principes des choses en physique, et voilà cet homme devant désespérer de trouver cela. Pascal veut montrer par là, non pas l'inanité ou l'inutilité des sciences physiques, mais leur insuffisance au regard de la métaphysique. Nous rappelons que Pascal est un grand savant, mathématicien, et un homme qui a écrit des choses capitales. C'est notamment lui donc, qui a fait les célèbres expériences du Puy de Dôme sur le vide. Voilà donc un grand savant qui ne méprise pas la science, mais qui voit bien des insuffisances insurmontables dans la connaissance dont l'homme est capable. C'est-à-dire dans la connaissance, déjà ici, de l'univers. Voilà donc l'homme dans une nouvelle situation, l'homme comme perdu entre ces deux infinis. À partir de là, comment avancer? Eh bien, à partir de là, nous pouvons regarder le cheminement que nous propose Pascal. Ce cheminement consistera dans un premier temps à nous faire découvrir notre misère, non pas notre misère d'un strict point de vue physique, à savoir ce que nous voulons voir, l'homme entre les deux infinis, mais notre misère parce que, et dans la mesure où, nous sommes loin de Dieu et séparés de Dieu. Cela permet à Pascal une phrase que beaucoup de personnes connaissent, c'est la suivante, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Soyons attentifs au fait que ce n'est pas Pascal qui parle ici. Pascal n'est pas effrayé par le silence éternel des espaces infinis, donc c'est l'infiniment grand. C'est une parole qu'il faut mettre dans la bouche de l'athée ou du libertin, et donc c'est une phrase qui est dans la bouche de celui pour qui, justement, il n'y a rien de plus, rien d'autre que ces espaces infinis et leur silence éternel. Là où Pascal, justement, veut nous faire voir que ce n'est pas dans la nature, au sens de physique, hein, de monde physique, mais dans l'homme, que nous trouverons la clé, d'abord le chiffre, et ensuite la clé du chiffre. La question est donc celle de la misère de l'homme. Comment Pascal procède-t-il? Eh bien, en mettant l'accent sur tout ce qui en l'homme font ce qu'on pourrait appeler ici son auto-effondrement, son insuffisance radicale. Pascal mettra l'accent sur l'imagination pour montrer de quelle manière cette imagination nous conduit dans l'illusion. Il mettra l'accent sur la vanité des coutumes, sur la vanité de l'amour propre. Il mettra l'accent aussi sur la fausse justice. Il y aura des pages magnifiques sur la fausse justice de l'homme. Fausse justice principalement du fait que nous confondons la justice avec la force et que, à défaut de trouver ce qui est juste, il nous reste à trouver ce qui est fort. Mais avoir la force en lieu et place du juste, cela évidemment est tout à fait insatisfaisant. Donc il faut maintenant lire Blaise Pascal, lire toutes ces pages magnifiques. Il faut aussi lire les grandes pages sur le divertissement. Ce sont des pages tout à fait célèbres, familières à beaucoup d'auditeurs, j'imagine, mais des pages qui réservent 1000 surprises. Cela veut dire qu'il nous faut méditer la question de l'homme. Pascal rappelle qu'il a longtemps étudié ce qu'il appelle les sciences abstraites, la géométrie, l'arithmétique, la physique expérimentale. Il a écrit d'ailleurs une admirable préface pour son traité du vide, une préface dans laquelle il note des choses essentielles relatives à la nature de la science moderne, de la science nouvelle. Pascal, donc, a longtemps étudié ces sciences abstraites, mais il s'en est éloigné, notamment parce qu'il a trouvé peu de compagnons de route, dit-il, peu de communication qu'on pouvait en faire, et principalement aussi, c'est en raison de sa conversion, en raison de la métamorphose de son existence, qui l'a conduit à la théologie, c'est-à-dire qu'il a conduit en vérité à Dieu. Mais cela veut dire aussi que cela l'a conduit à l'homme. Or, c'est là qu'il y a une surprise pour Pascal, une première surprise. Quand il s'est tourné vers l'étude de l'homme, il a découvert qu'il y avait encore moins de compagnons d'études qu'il en avait eu auparavant dans l'arithmétique, dans la géométrie, etc. À l'époque de Pascal, il y a peu de savants dans les sciences de la physique et des mathématiques. Et la surprise de Pascal, c'est qu'il y a encore moins de savants dans l'étude de l'homme. Or, pour Pascal, c'est là une grande question, c'est là quelque chose de nécessaire. Pascal dit donc « J'ai été trompé, il y en a encore moins qu'il étudie que la géométrie. » Surprise. Qui s'intéresse à la question de l'homme? Cette surprise est encore la nôtre aujourd'hui, Nous avons de nombreux, beaucoup plus nombreux qu'à l'époque de Pascal, de nombreux physiciens, géomètres, astrophysiciens, etc., mais qui prend vraiment soin de se demander ce qu'est l'homme, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas, et qui prend soin enfin, comme le fera Pascal maintenant, de mettre l'homme en regard de Dieu, de placer l'homme devant Dieu et dans la relation avec Dieu. Ce qui pose la question donc de la béatitude ultime de l'homme.